Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, nous avons quitté la Norvège avec quelques pionnières du cinéma dont je vous ai présenté vie et parcours. Edith Karlmar, d'abord, qui fut la principale réalisatrice de longs métrages fin des années 40. Leikenvogt, scénariste sur plusieurs longs métrages norvégiens et pionnière dans l'enseignement et l'éducation cinématographique en Norvège. Fanny Wittborg, monteuse, photographe, actrice et réalisatrice de films culturels et informatifs. Tulle Ngo, dont la participation en tant que costumière n'est pas à sous-estimer au cinéma et qui a participé en outre à la création et confection de costumes pour des films tournés par une réalisatrice contemporaine, Vibeke Løkkeberg. Et enfin, nous avons pu écouter un peu de musique de Agathe Becker-Grandal, qui, si elle n'est pas compositrice de films, est néanmoins une compositrice norvégienne née au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, nous quittons la Norvège pour rencontrer dans d'autres coins de la planète encore de ces pionnières qui marquèrent l'histoire du cinéma, même si leur nom, pour la plupart d'entre elles, est tombé dans l'oubli. Et c'est le cas de l'Australienne Elsa Chauvel, née en 1898 Elsie May Wilcox, qui, elle, a laissé à son mari les honneurs de la célébrité, malgré une participation certaine à bien des postes clés de la réalisation cinématographique, et qui fut entre autres actrice, dialoguiste, co-scénariste, assistante de réalisation et de production. Alors, elle était la fille d'un acteur irlandais nommé Edward Wilcox, au nom de scène de Edward Sylvane, et d'une actrice australienne nommée Ada Voril. Donc, elle baignait toute jeune dans le milieu du spectacle et de la comédie. Et de plus, ses parents avaient formé une troupe de théâtre itinérante lorsqu'ils ont déménagé en Afrique du Sud. Et dans ce cadre, Elsa Chauvel, qui se nommait encore Wilcox, avec son frère Kiri, s'initièrent à la comédie puisqu'ils ont joué avec leurs parents. Alors, c'était aussi bien des rôles convenant à leur âge que des rôles d'adultes, hein, en se travestissant et se maquillant de manière adaptée. Alors, lorsque le succès de la troupe commença à s'estomper, les parents arrêtèrent leur tournée et revinrent à une existence plus sédentaire, mais en gardant des liens avec le milieu du spectacle, puisque le père est devenu régisseur et que les enfants ont continué de jouer, mais surtout en tant que doublure. Et c'est parce qu'une actrice principale est tombée malade qu'Elsa a pu reprendre le rôle, et ce, avec suffisamment de succès pour qu'elle soit engagée pour d'autres rôles, si bien qu'elle finira par rencontrer une certaine popularité à Johannesburg, en Afrique du Sud, jusqu'au moment où les parents décidèrent de rentrer en Australie. Alors, à leur retour en Australie en 1924, Elsa a 26 ans, elle a le charme et les atouts de la jeunesse. Bon, en effet, j'ai vu une jolie blonde sur photo. En plus, elle a de l'expérience, si bien qu'elle trouve facilement à interpréter des rôles principaux dans les théâtres australiens. Alors, en 1927, elle épousera un réalisateur nommé Charles Edward Chauvel, réalisateur qui l'avait repéré et l'engagera pour un premier rôle au cinéma dans son second film de 1926, intitulé Green-Eyed, traduit en français par Peau verte, dont l'intrigue se déroule dans une ferme australienne. Bon, c'est bien évidemment à cette époque un film muet, et ce sera d'ailleurs le dernier film muet de Charles Chauvel. Alors, il réalisera par la suite 7 longs métrages, hein, plus des documentaires, notamment de guerre, et aussi une série télévisée. Alors, je vous donne quelques titres. C'est « Dans le sillage du Bounty » de 1933, une reconstitution historique de la mutinerie du Bounty avec un célèbre acteur de l'époque dont c'est la première apparition à l'écran. Il s'agit d'Errol Flynn. Puis Patrimoine de 1935, Sauvage de 1936, Rivière Angle de 1937, 40 000 cavaliers de 1940, Les rats de Tobrouk de 1944, qui lui est un film de guerre pendant la guerre 39-40, Fils de Mathieu de 1948, Jeddah de 1955, qui met en scène des aborigènes et l'adoption par une blanche d'une enfant aborigène qu'elle nomme Jeddah, du nom d'un oiseau sauvage. Et ce film sera le premier film australien sélectionné au Festival de Cannes en 1955. Et pour tous ces films, Elsa sera présente en assistant activement son mari dans bien des fonctions. Sous le surnom d'Anne Wynn, elle sera tour à tour assistante de production, réalisatrice adjointe, mais aussi sous son nom d'Elsa Chauvel, elle occupera des fonctions de co-scénariste ou directrice de dialogue. Et elle fut reconnue d'ailleurs pour être une parfaite assistante. Et paraît-il, aurait dit elle-même que le rôle d'une femme était de charmer les hommes et de soutenir son mari. Et nous pouvons dire qu'elle a fort bien illustré sa devise. Or, dans le cadre de ses activités, elle pouvait fort bien participer à la conception de costumes qu'au choix des lieux de tournage. Et pour arrondir des fins de mois difficiles, elle donnait également des cours d'élocution et de danse. Quant à sa carrière d'actrice, même si elle a continué de tourner, celle-ci est passée au second plan. Or, lorsque son mari décédera en 1959, elle continuera à assurer sa promotion et s'arrangera pour que sa production cinématographique soit conservée dans les archives cinématographiques nationales. Et elle a également fait tout ce qui était possible pour promouvoir le cinéma australien. Et sa contribution fut enfin récompensée, car elle reçut l'ordre de l'Empire britannique en 1964. Et c'est en 1983, à l'âge de 85 ans, qu'elle s'éteindra. Alors après Elsa Chauvel, je vous propose de découvrir une compositrice australienne qui va nous permettre de rester en Australie, non loin du peuple aborigène, hein, qui, comme vous le savez sûrement, sont les descendants des premiers humains à avoir peuplé une partie de l'Australie. Notre compositrice du nom de Miri Hill, née en 1889, Miri Salomon, aurait composé une musique inspirée des peuples autochtones d'Australie sur la demande d'un anthropologue nommé Charles Munford pour illustrer son documentaire. Et cette musique, une suite, s'intitule « Three Aboriginal Dance et Am Land Symphony ». Bon, je vais vous le dire en français, ça sera peut-être plus clair. « Trois danses aborigènes » et la terre d'Arnhem. Arnhem étant située au nord-est de l'Australie et fut déclarée réserve aborigène en 1931. Alors pour en revenir à Miri Hill, elle fit ses études de musique et étudia la composition avec celui qui deviendra son mari et dont elle porte le nom. Il s'agit d'Alfred Hill, un compositeur, chef d'orchestre et enseignant. Et par la suite, Miri Hill deviendra elle-même professeure d'harmonie et de composition. Et elle composera plus de 500 pièces. Alors de la musique de chambre, de la musique de film, musique pour orchestre. Et elle est cataloguée de miniaturiste, car nombre de ses œuvres sont très courtes. Alors je vous propose d'écouter partie d'une symphonie intitulée Arnhem Land, pour que vous ayez une idée de son travail.
Thank you.
malgré mes efforts pour ramener encore devant vous une pionnière australienne, je n'ai trouvé personne. Toutes les femmes réalisatrices ou autres que j'ai pu rencontrer en Australie sont des contemporaines. Les plus jeunes sont nées autour des années 50-60 du XXe siècle, hein, bien sûr. Et de celles que j'ai trouvées, j'en ai bien dénombré une vingtaine, hein, si ce n'est plus. Aussi, j'ai essayé de me tourner vers un autre pays, et c'est l'Irlande qui a retenu mon attention en la personne de May Clarke. Celle-ci, née en 1885, est l'une de ces femmes touche-à-tout, utile pour tous et sur tous les fronts, et que rien ne rebute ni ne démonte. Enfin, elle n'a pas échappé à mon filet, que je lance toujours bien loin et bien profond, et j'ai réussi donc à la ramener à la surface et à votre connaissance, cette caméraman, décoratrice, créatrice de costumes, actrice et productrice, donc toute femme réunie en une, May Clarke, qui, elle, débutera dans la vie en se présentant en tant que directrice de photographie et se retrouvera nez à nez avec un directeur de photographie de 3 ans, son aîné, qu'elle épousera à 21 ans. Bon, à vrai dire, elle a commencé bien plus tôt à se rapprocher du cinéma, car elle fut embauchée pour jouer des petits rôles dans des courts-métrages en 1898, dès l'âge de 13 ans, pour un réalisateur nommé Cecil Hepworth. Et ainsi, elle endossera le rôle principal d'Alice au Pays des Merveilles, et qui sera la première version cinématographique du conte de Lewis Carroll. Or, son implication dans le cinéma s'est intensifiée alors qu'elle avait à peine 15 ans, et elle continuera sur cette lancée jusqu'à la naissance de son enfant en 1908. Or, durant cette période, elle aurait mis la main à la pâte dans bien des secteurs, hein, que ce soit pour concevoir ou réaliser des décors, des effets spéciaux, des costumes, hein, jusqu'au contrôle du film, sans compter son implication en tant qu'actrice. Et elle tournera dans une vingtaine de films entre 1900 et 1908. Et avec son mari, elle créera la Stanford Hill Film Cleaning Company, chargée de réparer des films défectueux et de les nettoyer. Puis à Dublin, son mari, Norman Wheaton, s'établira en tant que producteur et loueur de films, ainsi que fournisseur d'équipements cinématographiques. Mais il ne s'arrêtera pas là, et May Clarke le suivra. Sans doute l'épaule ratelle dans ses projets de création d'entreprise, jusqu'à devoir gérer elle aussi les entreprises sous sa responsabilité. Et les suites de son existence restent inconnues, et il est dit qu'elle est décédée à un âge avancé. Alors, puisque nous sommes en Irlande, faisons une petite pause musicale irlandaise. À défaut d'une musique de film, j'ai trouvé une composition d'une Irlandaise née en 1889 et nommée Ina Boyle, qui a énormément composé des opéras, ballets, symphonies, œuvres pour chœur, orchestre, mélodies chantées, et a gagné de nombreux concours. Et elle était inspirée par l'Irlande, par les poètes qui ont célébré la beauté de ce pays. Et je vous propose une courte pièce chantée intitulée « Moon Reads Rushes » que nous pouvons peut-être traduire par lune, roseau et jonc.
Thank you.
Alors faisons un petit bond au Canada, hein, nous n'en sommes pas une frontière près, pour rencontrer May Watkiss, qui elle travailla dans l'industrie cinématographique, mais pour le compte du gouvernement, puisqu'elle fut fonctionnaire, employée comme projectionniste, assistante à la censure, agent de recouvrement de taxes. Or, celle-ci naît en 1879 et se mariera à 22 ans, ce qui la conduira à voyager dans toute l'Europe avec son mari pendant 5 bonnes années. Alors, il semblerait qu'elle soit issue d'un milieu aisé, car elle est souvent apparue dans des revues à la rubrique des mondanités. Quoi qu'il en soit, elle postule tout début XXe siècle au poste de censeur cinématographique, dont le bureau s'était ouvert en 1913 à Vancouver. Et là, elle fut refusée et le poste confié à un homme. Alors, il faut croire qu'elle avait de la suite dans les idées, car elle se rend alors chez le nouveau censeur et se propose comme assistante. Et celui-ci accepte, mais sous conditions insolites, c'est qu'elle travaille comme projectionniste à un moment où les formations de ce métier dit masculin est refusée aux femmes. Alors qu'à cela ne tienne, elle contourne l'obstacle en se rapprochant d'un projectionniste et lui demande de lui apprendre le métier. Apparemment, il accepte puisqu'elle devient projectionniste, ce qui lui permet de mettre un pied, voire les deux, dans le monde cinématographique. Et comme elle réussit parfaitement ce travail de projectionniste, eh bien, elle obtient par la suite le poste d'assistante convoitée, et ce, malgré, paraît-il, les protestations masculines d'un syndicat. Alors, petit à petit, comme on dit, l'oiseau faisant son nid, notre oiseau en question devient opératrice au sein du bureau du censeur des images animées, puis inspectrice chargée par le gouvernement, toujours au sein du bureau des censeurs, de faire appliquer une loi visant à prélever une taxe dans tous les lieux de divertissement, hein, les théâtres, les music-halls, et ce, sur les prix des billets vendus. Alors, en 1920, est créée une branche d'État sous la tutelle du ministère afin que le cinéma permette la projection de films éducatifs, instructifs, patriotiques, mettant en valeur richesse et activité du pays. Et paraît-il, May Watkiss est encore en première ligne puisqu'elle aurait été nommée directrice. Je mets quand même des bémols, hein, car même les infos trouvées sur ce sujet émettent quand même des réserves. Enfin, ce qui est pratiquement sûr, c'est qu'elle évolue à la solde du gouvernement et aurait été productrice de films promotionnels pour vanter les atouts locaux. Et ses fonctions diverses sont néanmoins entourées d'une espèce de flou. Hein. Je ne vais pas qualifier flou artistique, hein, parce que ça va m'agacer. Mais il semblerait que les faits confirment qu'elle restera inspectrice pendant 21 ans dans le service de prélèvement des taxes, et ce jusqu'en 1940, date de son décès. Et elle aura su en tout cas se faire remarquer en vue de nombreux articles dans la presse où est mis en avant son lien avec le cinéma. Et elle aurait également été qualifiée comme étant la première femme exploitante de films au Canada. Eh bien, nous terminons cette émission avec May Watkiss. Je vous donne rendez-vous pour découvrir encore d'autres horizons avec d'autres pionnières au cinéma. Il est possible que je vous emmène dans des pays toujours plus exotiques où vous n'envisageriez peut-être même pas de rencontrer des pionnières au cinéma de la fin 19e, début du 20e siècle. Mais nous verrons cela une prochaine fois. Et en attendant, merci de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.